Au quatrième jour de l'offensive israélo-américaine en Iran, l'émissaire américain Steve Witkoff est revenu sur les négociations menées sur le nucléaire iranien. Vous vous en souvenez, on vous en parlait hier dans le journal. Les Iraniens qui s'étaient vantés d'avoir éventuellement déjà enrichi de l'uranium à 60% et qui pourraient avoir fabriqué 11 bombes nucléaires. On parle de ce dossier sensible, si on peut le dire, avec notre invité Samuel Furfari. Il est professeur émérite à l'ULB, spécialiste de l'énergie. Il est au micro de Blaise van der Linden.
Samuel Furfari, bonjour.
Bonjour, bonjour aux auditeurs, bonjour à vous.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors aujourd'hui, on va parler du côté nucléaire de cette guerre qui a commencé depuis maintenant samedi entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Et on va commencer avec des déclarations de l'envoyé américain Steve Witkoff, qui a déclaré lors des négociations, les représentants de Téhéran ont reconnu sans détour disposer d'une quantité d'uranium enrichi suffisante pour produire jusqu'à 11 bombes nucléaires. Il y avait le gendarme du nucléaire, l'AIEA, qui avait assuré que tout était sous contrôle. Visiblement, l'AIEA n'a pas fait son travail, Samuel Furfari.
C'est pas que l'AIEA ne fait pas son travail, c'est que les Iraniens sont des menteurs spécialistes de la manipulation. Alors, si c'est vrai, ils ont manipulé l'agence internationale nucléaire, et si c'est pas vrai, ils essayent de manipuler l'opinion publique pour leur faire avoir peur. Vous savez, c'est un régime qui n'arrête pas de mentir, de manipuler depuis des décennies, 47 ans de mensonges. Donc, il ne faut pas s'étonner, il continue à mentir. Mais je ne crois pas qu'il y ait tout cet arsenal. Je crois qu'ils sont tellement acculés qu'ils font tellement de bêtises partout, hein, à s'attaquer à une base à Chypre, c'est vraiment invraisemblable. Que s'ils avaient une bombe, je crois qu'ils l'auraient déjà utilisée, tellement ils sont jusqu'au bout. Donc voilà, restons calmes, on ne crée pas des bombes comme ça, du jour au lendemain. Et en plus, non seulement il faut la bombe, mais il faut le transporteur. Donc, soyons calmes. Ne faisons pas comme eux.
Oui, justement, vous nous conseillez de rester calmes. Toujours selon Steve Witkoff, les Iraniens auraient carrément utilisé cette menace nucléaire comme levier de pression dans les négociations. Ça montre, comme vous l'avez dit, qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout.
Oui, ils sont prêts à aller jusqu'au bout et ils sont prêts à continuer à mentir. Je voudrais revenir sur un épisode d'il y a quelques années, en 2015, on avait obtenu un accord avec eux, un accord nucléaire, où ils disaient qu'ils allaient arrêter le nucléaire. Et puis, Monsieur Trump est arrivé en 2019, et il a dit, moi, je vous crois pas, vous êtes en train de mentir. Et la preuve, c'est que, voilà, ils ont menti. Soit ils ont menti en 2015 de dire qu'ils ont arrêté, soit ils ont menti hier en disant qu'ils ont des bombes. Donc voilà, c'est toujours la même chose. Ces gens-là mentent sans arrêt parce qu'ils ont un objectif. Hein, ils ont un seul objectif, c'est détruire Israël. Je suis surpris qu'encore il y ait des gens qui n'acceptent pas cette réalité. C'est comme ça, ils veulent détruire Israël. Un Ahmadinejad qui était le premier ministre, de 2005 à 2013, il avait carrément dit qu'il fallait effacer la tâche infâme et que ceux qui reconnaissent Israël vont brûler dans le feu de la colère de la nation musulmane. Donc voilà, c'est 2005, ça fait quoi? Ça fait 13 ans. Il y a 13 ans, 10, combien 5,
11 ans.
23 ans.
Ah oui, en 2005, oui. Oui.
Ouais, 23 ans qui raconte la même chose. Donc faut pas s'étonner, quoi. C'est terrible, cette manipulation de ces États. Vous savez, on appelait ça un État voyou, mais il faut appeler les choses par leur nom. Hein. C'est soi-disant représentant de Dieu pendant 26 ans, 36 ans a fait des massacres, a ordonné des humiliations à la population. A du sang sur les mains, ben oui, bon, je comprends qu'à un certain moment, on dit que ça suffit.
Ouais. Lors de la guerre des 12 jours, hein, pour revenir sur sur le nucléaire, lors de la guerre des 12 jours, on avait dit que le système nucléaire, le programme nucléaire iranien avait été largement affaibli. Visiblement, ça ne l'a pas été tout autant qu'on l'attendait. Est-ce que vous pouvez rassurer nos auditeurs en tant qu'experts qu'aujourd'hui le développement de la bombe nucléaire en Iran est quasi impossible?
Mais on n'en sait rien, hein. Quand M. Trump a dit qu'ils ont tout détruit à Forceau, on n'en sait rien. On n'a pas été voir, et puis pas voir, et puis manipule. Donc on est dans l'inconnu. De toute façon, ils n'ont pas la bombe, parce que sinon ils l'auraient déjà utilisée. Et je répète qu'ils n'ont pas de transporteur pour la bombe. Bon, il ne suffit pas d'avoir une bombe, il faut encore pouvoir la transporter. Et donc moi je rassure les auditeurs, hein, soyez tranquilles. D'autant plus que leur pouvoir de nuisance va être éradiqué, peut-être pas complètement, mais je le souhaite complètement, mais ils vont être redimensionnés, c'est évident. Ce qui se passe, c'était quand même extraordinaire, quoi. Aller tuer le chef comme ça, dès qu'on déclenche la guerre, c'est quand même exceptionnel, et on n'est qu'au début, après 3 jours, on voit bien la force de frappe qu'il y a partout, qui vont redimensionner ce pays. C'est pas évident que le régime tombe. Ça, c'est pas évident. Parce que il y a tellement de personnes qui ont été endoctrinées pendant presque 50 ans. Ben voilà, les personnes qui ont moins 50 ans, elles ont été endoctrinées. Hein. Donc, il y a que ceux qui ont pu sortir un peu de leur pays, avoir un peu de liberté, qui comprennent que ce pays est pourri. Mais il y a encore beaucoup de personnes, surtout dans les campagnes, dans les grandes villes. Bah oui, les gens ont compris, mais dans les campagnes, ils sont encore endoctrinés. C'est un peu ce qui se passe aussi en Turquie. Hein. Vous allez à Istanbul, à Ankara, ce sont des villes modernes, et les gens ne veulent pas d'Erdogan. Mais puis vous allez dans les petits villages reculés d'Anatolie, et là, les gens votent pour Erdogan, pour l'islamisme.
Oui. Autre sujet que je souhaitais aborder avec vous, Samuel Furfari, c'est le branle-bas de combat autour de l'énergie mondiale, notamment le pétrole. On sait que le pays, l'Iran, regorge de ressources pétrolières, et on entend de plus en plus la possibilité d'une fermeture du détroit d'Ormuz. Comment est-ce que vous l'analysez, cela?
Le détroit d'Ormuz, ce n'est pas un robinet. Vous pouvez fermer un robinet, vous pouvez fermer Internet comme l'État islamique est en train de faire, mais le détroit d'Ormuz, c'est un espace maritime qui fait 39 km de long. C'est les 2/3 de la côte belge, hein, pour vous donner une idée. Les 2/3 de la côte belge, vous n'arrêtez pas ça, vous ne savez pas faire un barrage. Donc physiquement, on va pas le fermer. Par contre, c'est dangereux pour les bateaux parce qu'ils peuvent envoyer peut-être de moins en moins de missiles, mais encore des drones qui peuvent provoquer des explosions. Et donc, les compagnies d'assurance se retirent en disant « on vous assure plus si vous partez par là ». Et c'est bien compréhensible. Donc, il va y avoir pendant la durée de la guerre, jusqu'à ce que l'Iran soit redimensionné, moins de passage ou plus de passage du tout par le passage d'Ormuz. Mais ça n'a rien à voir avec les fondamentaux de l'énergie. Je dirais même que c'est le contraire. Cette guerre démontre encore plus qu'avant que nous sommes dans un monde d'abondance de pétrole et de gaz. Parce que sinon, on n'aurait pas osé faire ça. C'est parce qu'il y a du pétrole et du gaz dans le monde entier que beaucoup de pays peuvent le produire en dehors du Golfe, en dehors de l'Iran, bien entendu, que l'on peut se permettre de dire, voilà, on va faire des détroits d'Ormuz. Le prix va monter parce qu'il y a des spéculateurs. Vous savez, dans le monde du pétrole, c'est toujours du yo-yo, hein, il y a toujours des spéculateurs. Vous augmentez de quelques centimes le baril de pétrole et vous devenez riche. Hein. Donc voilà, il faut savoir que tout cela c'est pas des enfants de cœur. Il y a beaucoup de gens qui spéculent et qui s'enrichissent sur l'augmentation du prix du pétrole. Et d'autre part, il y a du pétrole partout, donc faut pas avoir peur, quoi. Il y a pas de pénurie. Et de plus, comme j'insiste, c'est pas quelque chose de structurel, ça va pas durer. Structurellement, le prix du pétrole va encore baisser. Pourquoi va-t-il baisser? Parce que le jour où l'Iran va être mis sous tutelle, d'une façon ou d'une autre, s'il veut produire du pétrole ou du gaz, ça va prendre un peu de temps, mais ça va permettre au marché du gaz d'être encore plus inondé, et pétrole aussi, ce qui fait qu'il y aura une tendance à la baisse, bien entendu. Pour l'instant, on se prive de 10% des réserves du monde et de 19% des réserves du gaz du monde. Donc voilà, si tout ça, si l'Iran redevenait ce qu'il était du temps du Shah, ben forcément le prix du pétrole et du gaz vont diminuer.
Samuel Furfari, je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'ULB. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka. À bientôt.
Voilà, je vous en prie. Merci pour votre appel.